Il y en a 4-5. Êtes-vous heureux d'être ici? Voulez-vous tourner dans Apocalypse 13, versets 1 à 10? Donc, dans Apocalypse 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplis d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné une autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Sa parole soit bénie.
Michel.
Merci, Jonathan. Ça va bien ce matin? Mais il y a des places, ça ne va pas trop bien. Moi, j'aime mieux être ici qu'ailleurs. Et j'aime mieux être dans cette époque de la grâce que l'époque que nous sommes en train d'étudier. En passant, le chapitre 13 d'Apocalypse est rendu d'actualité. Je ne sais pas si vous savez ça. Si vous allez sur Internet, vous allez voir que sur YouTube et toutes les chaînes CNN et partout, et il y a des gens qui crient des cris d'alarme. L'Antichrist se présente. Barack Obama est l'Antichrist. McCain est l'Antichrist. Bill Clinton est l'Antichrist. Et il y a cherché le chapitre 13 de l'Apocalypse, puis ils ont monté des vidéos, là. J'en ai écouté quelques-uns, je vous dis, là, c'est capotant, c'est fait professionnel. T'écoutes ça avec la musique, là, puis t'as la chair de poule quand tu veux monter ça, puis... Ça, c'est donc intriguant, hein? Même ceux qui sont même pas au Seigneur sont intrigués par le chapitre 13 de l'Apocalypse. Peut-être un peu comme Nostradamus, où ce qu'on veut étudier et connaître les mystères. On dirait que c'est dans l'être humain, n'est-ce pas, de... s'en aller avec tout cela. Puis dans les deux prochaines semaines, on va regarder ensemble deux bébites, deux monstres. Il y en a un qui va sortir de la mer, sortir de la terre. Et laissez-moi vous dire quelque chose, s'il y a de l'information à transmettre lorsqu'on étudie ces sujets-là, laissez-moi vous dire, ce qui est plus dur à préparer des là, c'est de trier ce qu'on va vraiment dire. Il y a tellement de détails, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais moi, j'aimerais mettre en perspective ce matin la pertinence d'être un peuple qui étudie les époques, comme la famille des Icares dans l'Ancien Testament, qui était 250. Et c'était une famille réservée en Israël pour étudier les époques dans lesquelles Israël passait. Être des chrétiens vigilants qui n'ont pas de poignée dans le dos, on n'est pas des pour nous remplir avec n'importe quoi. On ne se fait pas embarquer par des extrémistes, par des tangentes. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Il y a un paquet d'authentiques enfants de Dieu qui sont embarqués dans des choses incroyables. des gens qui ont du charisme, de la séduction, leur oratoire à son maximum, le verbe bien manipulé. Et on va convaincre les gens du bug de l'an 2000, puis aller faire l'épicerie, que je connais un gars, il a fait 800 piastres d'épicerie. C'était plein dans sa cave. Bien sincère. Et l'étude de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui nous rappelle des grandes vérités sur les attributs de Dieu. L'Apocalypse nous rappelle que Dieu a dans sa main la destinée de notre planète Terre. Combien d'alarmistes, combien de gens nous arrivent avec toutes sortes de choses concernant la fin du monde. Il y a même un monsieur qui a parti une religion, une secte, en se basant là-dessus. Réveillez-vous! Mais pour nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on veut avec l'Apocalypse? On fait semblant qu'elle n'existe pas. On se bouche les deux oreilles, et là, on est vraiment, vraiment vulnérable à tout ce qu'on entend. La dernière, c'est quoi? 2012? La fin du monde? Laissez-moi vous dire quelque chose, le peuple de Dieu est au courant. Moi, en 1982, t'as souviens-tu, Jean-Claude? Hein? Les planètes en ligne, les charognards en Israël avaient plus d'œufs, puis ils mangeaient des cadavres, puis là c'était... Ça finit plus. Mais pourtant, il y a un message important pour le peuple de Dieu. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a laissé la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons de ceux qui aient cette parole dans leurs mains. De ceux qui réfléchissent, qui observent, qui essaie d'être équilibré, le gros bon sens est là. Et les commentateurs de l'Apocalypse vont tous vous dire, ceux qui sont sérieux, oui, il peut y avoir des manières de voir des détails, des manières de voir ces choses-là. Et on ne reste pas surpris, ici et là, ils sortent des nouvelles positions. Pré-mille, pré-tribe, mi-tribe. Dr. Rosenthal vient de sortir une autre position qui n'est pas mitrible, mais qui ressemble à ça. Ça ne finit plus. Et moi, je vous dis ce matin, Dieu a un message pour nous ce matin avec le chapitre 13 de l'Apocalypse. Pour nous donner un discernement. Et Dieu veut nous informer sur son plan pour l'univers. Pourquoi? Pour la même raison qu'informait Jean au premier siècle de notre ère, lorsque Jean écrit l'Apocalypse. Une époque de persécution. Une époque de découragement parmi les chrétiens. Une époque où ce qu'on croyait que c'était la fin du monde déjà. C'était la torture. En Asie, c'était la persécution. Et les chrétiens étaient découragés. Qu'est-ce qui arrive? Et pour rassurer les enfants de Dieu de l'époque du premier siècle et les églises, Dieu nous donne ce livre qui nous dit haut et fort, Dieu est en contrôle. Fais confiance au Seigneur. Ce qui arrive partout dans le monde, Dieu n'est pas surpris. Dieu a un plan pour l'univers. Dieu a un plan pour votre vie, pour ma vie. Et à quelque part, le propriétaire de la planète Terre va arriver avec les clés puis il ferme la boutique. Intéressant. Vous savez, on a parcouru un grand chemin ensemble. On s'en va quelque part. On est futuriste dans l'enseignement ici à l'Assemblée. On est à l'aise avec cela. Et je n'arriverai pas avec les 4-5 positions qu'on pourrait vous débattre ce matin, mais je vais vous donner ce que nous, on enseigne ici et la pertinence de cet enseignement. Donc, nous sommes dans une parenthèse. Douglas a commencé le chapitre 12, ça va aller jusqu'à 14-20 avec les 144 000. Il y a une parenthèse qui est ouverte avant ces coupes de malheur. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre comme il faut les acteurs, la situation Et lorsqu'on va arriver dans les coupes de colère, lorsqu'on va arriver vers l'apogée de la terre connue, lorsqu'on va arriver à Nouvelle Jérusalem, Nouvelle Terre, Nouveaux Cieux, Satan jeté dans les temps de feu avec ses adorateurs, on va comprendre qu'il y avait un cercle, il y avait une toile de fond derrière tout cela. La société dans laquelle on est, une société anti-Dieu, a tricoté des systèmes, a tricoté des manières de fonctionner. Où ce qu'on a tassé Dieu et on a dit, on va régler et on va mener la planète Terre à notre manière. Inspiré par notre ennemi. Notre ennemi qui est venu en Éden. Mettre en doute ce que Dieu dit et proposer un autre plan. Et nous avons ce grand privilège dans ces chapitres de connaître dans les grandes lignes le plan de Dieu pour notre planète Terre, pour l'univers. Donc, je vous propose comme introduction au chapitre 12, on a vu le dragon rouge Satan qui a été chassé du ciel. Dans le chapitre 13, on va voir le dragon rouge Satan est sur la terre et il est animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps, il va déployer une intense et magnifique activité, excusez. Là, il était 25, il va trop vite. Chapitre 12, on a vu que le dragon est décrit. Au chapitre 13, il met en scène ses deux suppôts, savoir l'Antichrist, le faux prophète, chargé de séduire les habitants de la terre. Au chapitre 12, on a vu le grand dragon Satan qui a voulu s'attaquer à la femme et son enfant, le Messie, et le dévorer. Il se trouve sur le devant de la scène. Il est en premier au chapitre 12. Au chapitre 13, on voit que Satan se retire dans les coulisses et agit surtout par personne interposée. Mais il est plus actif que jamais sur la terre. Le dragon rouge au chapitre 13 s'incarne d'abord dans la première bête possédant des pouvoirs de Satan. Dans le chapitre 13, on voit aussi, puisqu'il a suscité une deuxième bête qui va séduire et entraîner l'humanité à adorer la première bête. L'apôtre Paul avertit dans le Nouveau Testament les chrétiens de Thessalonique qu'eux étaient inquiets. Comment se fait ça, le Seigneur est pas venu? Il y a des gens qui meurent en Christ. Il y a des gens qui meurent avec Christ. Et où est-ce qu'ils vont, ceux qui meurent avec Jésus-Christ? On sait que dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient sans Christ, sans espérance, allaient dans le séjour de mort. Et les saints de l'Ancien Testament allaient dans le sein d'Abraham. Mais qu'est-ce qui arrive dans la nouvelle dispensation? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Et l'apôtre Paul va dire, écoutez, paniquez pas, le Seigneur va revenir au temps voulu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie, le rejet de la foi, l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître un homme, l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Il y a un personnage extraordinaire qui va régner mondialement sur toute la planète Terre. C'est pas arrivé encore. Il va faire des choses spécifiques. Et j'ai hésité avant de faire cette portion-là, mais c'est important de savoir que tout ce que nous lisons dans le chapitre que nous allons étudier, et on le retrouve dans Daniel 2 et 7. Regardez bien. Dans Daniel 2, 7, on nous donne la signification des peuples. La tête d'or, le lion, c'est Babylone. La poitrine d'argent, qui est l'ours, qui est Mède et les Perses. Les reins des reins, léopards, qui sont les Grecs. Et les jambes et fer et d'argile, c'est le monstre qu'on est en train d'étudier. C'est l'Empire romain. Et là, je suis convaincu que vous dites, oui, mais on n'est pas dans la Pax Romana, là. On n'est pas entre 50 et 250 de notre ère où Rome est puissant, où un Romain pouvait se promener sur une route en toute sécurité. On n'est pas là. Mais on va voir dans ces chapitres que cette Rome, cette puissance, ce monstre va être revivifié dans les derniers temps pour être un empire. Alors, la Babylone, l'ours, qui parle des Mèdes et des Perses, le monstre, 7 têtes, 10 cornes qu'on va voir, petite corne, le temps de la grâce arrive. Et ensuite, nous, nous sommes là dans notre étude en train de regarder ces années, cette dernière semaine de Daniel, ce 70e semaine. Nous allons avoir ensemble, nous allons voir ensemble ces 42, c'est-à-dire 3 ans et demi, 42 mois, où l'empire de l'Antichrist va régner. Le monstre, on va voir encore la même chose qu'on voit dans Daniel, 7 têtes, 10 cornes et petites cornes. Et la différence qu'on voit, c'est que entre les dominateurs qui ont déjà passé sur cette terre, c'est que la terre entière, 7 milliards de personnes, sauf ceux qui ont la marque de Dieu, les 144 000 des belligrammes laissés à cette époque, et ceux qui vont croire en leurs paroles vont mourir à cause qu'ils ont cru en leurs paroles, la planète entière va se dévouer au culte de cet imposteur qui est l'Antichrist. Et on va parler la semaine prochaine de la Trinité satanique. J'ai mis ça pour qu'on sache où est-ce qu'on est en train, où est-ce qu'on est en train de réfléchir, ce qu'on est en train de réfléchir, je suis en train de voir. Nous, on est dans le temps de la grâce. Et comme enseignement futuriste, nous savons que ça arrive dans le futur, mais il y a des grandes leçons à apprendre dans tout ça. Regardez le texte de Daniel. Il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui résistait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant 7 cornes. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Et Clarence Larkin en 1920, laissez-moi vous dire quelque chose, j'en ai vu des photos de ça. Mais Clarence Larkin, qui a fait un merveilleux livre là-dessus, il a vraiment resté biblique, là. Il a vraiment resté avec le texte. Et à fin de compte, c'est ça qu'il voit. Là, êtes-vous d'accord que ce n'est pas une vraie bébite? OK? C'est du symbolisme. Ça symbolise des choses. Et dans le chapitre 13, c'est la même chose. On va regarder ensemble des choses qui symbolisent des choses. Les 10 cornes. Les cornes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament signifient la puissance. Les couronnes signifient le règne. Et ce n'est pas Stéphanos, c'est diadème que là. La langue arrogante. L'arrogance des ennemis. Et les yeux d'homme, l'incarnation, les suppôts de Satan qui vont séduire l'humanité. L'identité de la bête, la première bête, regardez bien le texte. Le dragon rouge s'éteint sur le sable. Et ceux dans le Bible qui ont ce texte-là dans le chapitre 12, il faut savoir qu'il y a une petite controverse-là et effectivement, il faut commencer avec le fait que Satan est sur le sable et va susciter de la mer ses suppôts, ses assistants, qui va inspirer qui est l'Antichrist. Il va surgir de la mer, un instrument de son choix. Et on voit aussi que la bête, le mot qui est utilisé là, ce n'est pas un chat doux et gentil. Ça va être une bête sauvage, cruelle, indomptable. C'est vraiment l'expression qui parle de monstre marin. Vous savez, dans l'Ancien Monde, lorsqu'on disait qu'un monstre sort de la mer, C'est épeurant. Très épeurant, à cause qu'on ne sait pas trop ce que là. Qu'est-ce qui peut nous sauter dans la face? Il y a toutes sortes de légendes là-dessus. On va passer les légendes. Ici, c'est l'Antichrist et son empire. À cause des cornes, à cause des yeux d'homme, à cause des dents de fer, à cause de la langue arrogante, c'est une personne et aussi un empire personnifié. Ça va être une vraie personne que vous allez voir si vous êtes là en ce moment-là. Moi, je ne serai pas là. Mais c'est une personne qui va créer un empire et ce qu'on voit sortir de la mer, ce qu'on voit sortir de l'abîme pour certains auteurs, cette sorte de personne qui se rend et se donne entièrement à son maître et devient cet antichrist. Et son empire vient. Et Jean continue les détails. Il va nous dire qu'il va avoir quatre caractéristiques, cet animal, qui est décrit dans Daniel d'ailleurs. Il va avoir la majesté. Il va être impressionnant, je vous dis, là, vous allez arriver devant, là, puis vous ne pouvez plus parler presque. Ça va être quelqu'un qui va avoir un charisme, mes amis, là, où ce que vous allez l'écouter parler, puis vous allez perdre votre esprit critique. Il est tellement bon, il a tellement de bonnes manières de dire les choses, ça va être le superstar des superstars. Il va avoir la puissance du lion. Il va avoir la force brutale de l'ours. Il va avoir la rapidité et l'agilité du léopard. Il va avoir, en fin de compte, l'aspect terrorisant et l'appétit du quatrième animal, ce monstre fort et puissant. Appétit de quoi? Appétit de pouvoir, puissance politique, qui est la première bête. Et l'Antichrist, dans son plan, qu'on va voir, est très simple. C'est de faire adorer Satan. Dans Ésaïe 14, 14, lorsque la prophétie d'Ésaïe parle de Satan, il va nous dire, lorsqu'il décrit Satan, sur le vœu de son cœur, c'est de prendre la place de Dieu. Je serai semblable à très haut. Exactement. Je serai semblable au Très-Haut. Et c'est là que nous voyons dans cette 70e semaine de Daniel, la dernière carte des ennemis de Dieu pour avoir main haute sur l'humanité. L'acclamation de la bête par la terre entière. On nous parle d'une blessure à mort, thanatos. Et je vous dis, les commentaires, ceux qui vont commenter ce texte-là, on dit, oui, mais il est mort puis il n'est pas mort. C'est comme une sorte de mise en scène. Et d'autres vont dire, oui, mais Satan, dans ce temps-là, il était presque mort, puis là, moi, je ne le sais pas. Je vous dis bien franchement. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça fonctionne. Alors, il est blessé à mort, sa blessure est mortelle et est guéri. Et je vous dis que probablement, si on pouvait parler à quelqu'un de ce temps-là, là, il nous dirait, là, as-tu remarqué? La bête était morte, puis ressuscitée des morts. Et la terre entière, c'était bien important, je mets la terre entière, il faut vous réaliser, c'est pas une secte dans un coin au Texas, comme qu'on a vu hier soir, là, qui vient de se faire arrêter par la police, là. Pas ça. C'est la terre entière. Est-ce que ça vous surprend? Un gouvernement planétaire, une monnaie planétaire, une philosophie planétaire, une religion planétaire qui s'en vient, ça vous surprend? Il arrive n'importe quoi, n'importe où, on le sait de suite. La terre entière suivie là-bas. Tout le système de ce monde, avec son éthique, ses lois, sa manière de faire le commerce, sa manière de faire les choses, sa manière d'appliquer la justice pour tel et tel cas, vont suivre le leadership de la bête. Voici notre bête à quoi qu'elle ressemble lorsqu'elle est décrite. Larkin est bon. Je trouve Larkin. Regardez bien, là. Regardez comme faut. Il fait juste qu'un petit bateau pour nous montrer, là, c'est une mer à côté, là. C'est comme notre texte en image. Et là, on voit cette bête qui ressemble à un léopard. Regardez même la tête blessée. Vous voyez les gouttes de sang qui tombent? Je ne sais pas si on le voit comme il faut, là. On voit les 10 cornes, on voit les rois, les dominateurs des royaumes. Et c'est ce qu'on est en train de réfléchir ensemble. Et c'est ce que Jean est en train de dire. Il va y avoir ce genre de personne-là un jour qui va venir. L'apôtre Paul, dans Deutéronome 2, 9 et 10, nous dit, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères, et avec toute la séduction de l'iniquité. » On va aller plus loin dans la séduction la semaine prochaine. « Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. » La vérité va être encore là, mais ils ne l'aiment pas. Problème du monde qui n'aime pas la vérité. Ils ont mieux le mensonge. L'adoration universelle de la bête et du dragon. Et dans notre texte qu'on va voir ensemble, chapitre 14 que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est semblable au Très-Haut. Deutéronome 2, 4b nous dit, « Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. » C'est le but depuis le commencement, depuis Adam et Ève. Satan, son but, c'est qu'il veut prendre la place de Dieu et avoir l'adoration de l'humanité. Et Dieu va permettre ces choses-là. Puis regardez dans notre texte qui est écrit, « Il lui fut donné, une bouche. » C'est-à-dire la liberté de proclamer des blasphèmes d'une manière planétaire, avec une seule source de sa bouche à lui. Il va vraiment embarquer la planète entière. Deuxièmement, il a donné le pouvoir un temps limité. Il sait qu'il n'y a pas grand temps. Il y a 42 mois, 3 ans et demi, que les commentateurs appellent la grande tribulation. Les jugements. Et là, on va tomber dedans lorsqu'on va dans les couples qui sont déversés. Il va lui donner aussi 3 de faire la guerre aux saints et vaincre. Ceux qui vont accepter Christ vont mourir pour leur foi, excepté, chapitre 14 qu'on va voir, les 144 000, choisis par Dieu et protégés par Dieu. Il a donné aussi... Il a laissé l'autorité sur le monde entier. Ça, c'est important. Dans tous les domaines financiers, dans le domaine politique, point de vue agricole, point de vue commerce, tout est sur son contrôle. L'autorité totale. Qui, en passant, tous les dictateurs qui ont passé sur la planète Terre ont toujours voulu cela, n'est-ce pas? Le plus célèbre, probablement Hitler, pour notre temps, nous, mais reculé jusqu'à Antioche Épiphanus, si c'est en temps de Jésus-Christ, puis il y en a une liste longue de main. Hitler voulait avoir une langue spéciale, un peuple spécial, la race aryenne. Il y avait toute cette philosophie de supériorité. Puis beaucoup ont dit que c'était l'Antichrist dans ce temps-là aussi. Il a donné aussi d'être adoré par tous les habitants de la terre. Et le mot habitant de la terre vient souvent. Dans l'Apocalypse, il y a un terme spécial qui dit, ça veut dire habitant de la terre, ça ne veut pas dire des cultivateurs, ça veut dire ceux qui tirent leur existence de la planète Terre. Ceux qui tirent la signification du bien et du mal de la planète Terre. Ceux qui tirent la manière de vivre de la planète Terre. Donc, c'est le contraire des enfants de Dieu qui tirent leur existence pour être de ceux qui sont célestes, c'est-à-dire qui définit ce qui est bien, ce qui est mal pour nous? Système? Jeannette Bertrand? C'est qui? Mayou? Qui dit que c'est bien? Du Crisac? C'est qui dit ce qui est bien, ce qui est mal? C'est Dieu. Pour nous. Mais parler à quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, voyons donc. 7, perdition éternelle des adorateurs de la bête. C'est intéressant dans le texte, il nous est révélé que ces gens-là qui vont adhérer puis qui vont suivre, c'est la perdition éternelle pour eux. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné quelque chose d'important là. On va y revenir, il paraît 7 fois dans l'Apocalypse, et 6 fois dans l'Apocalypse, 1 fois dans Philippiens, ce terme livre de vie de l'agneau, le livre de vie. Et je ne passerai pas beaucoup de temps ce matin là-dessus, on va y revenir, le temps file. Mais c'est important de le mentionner dans ce chapitre-là, dans la portion dans laquelle on est, il faut savoir que le livre est mentionné pour démontrer que ceux qui n'ont pas leur nom dans ce livre de vie, c'est la perdition éternelle, même sur le moment, il va sembler avoir 42 mois de victoire et de puissance, 3 ennemis de nirvana pour eux. Le texte nous rappelle que leur fin, c'est la perdition éternelle. Il va y avoir les habitants de la terre qui adorent la bête. Et comme je parlais tout à l'heure, habitants de la terre qu'on voit ici, nous parlent souvent de ceux qui tirent leur existence de la terre. Il y a la foi des résistants à la bête. Cette élite, ces gens qui ne font pas partie de l'Église, de l'épouse, mais qui vont s'accrocher au vrai Messie. Et je ne vais pas anticiper le chapitre 14, un frère va l'enseigner, mais je vous fais remarquer que les 144 000 viennent des tribus d'Israël, qui vont reconnaître le réel Messie qu'ils ont rejeté vers l'entrée de notre ère. Ils vont le reconnaître dans ces moments-là, et c'est eux qui vont annoncer le royaume de Dieu dans ces temps difficiles. Et ceux qui vont croire en eux vont périr pour leur foi, à cause de leur foi. Mais ils vont résister. Comme conclusion, rapidement, qu'est-ce qu'on peut conclure? Avez-vous remarqué, peu importe l'époque, celui qui croit en Dieu, celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus, celui qui marche pour Dieu est persécuté. Paul ne nous rappelle pas quand il dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on se souvient des paroles du Seigneur Jésus dans Jean 16, 33, quand il dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde, vous allez avoir des tribulations dans le monde. » Jean, lui, lorsqu'il commence sa lettre, dans le premier chapitre, va dire « Moi, Jean, qui ai part à la tribulation comme vous, dans le premier siècle. » Est-ce qu'on réalise que ceux qui marchent pour Dieu seront persécutés aujourd'hui et dans ce temps-là? Et soyons pas surpris, parce que le système dans lequel nous sommes est un système anti-Dieu. On n'est pas dans le millénium en train que Dieu est en train de régner. On est dans un système qui est tricoté pour amener l'humanité dans l'œcuménisme et adorer cette bête qui est personnifiée, qui personnifie Satan lui-même. Deuxième conclusion, le croyant et la souveraineté de Dieu. Moi, je vous le dis, quand je regarde ça, ces chapitres-là, je suis tellement heureux de savoir que Dieu est en contrôle. Déjà victorieux avant même de finir la guerre. Que Dieu est souverain. Que nous, comme croyants, on sait que peu importe les nouvelles qu'ils vont nous annoncer demain à TVA, peu importe ce que CNN va dire demain, Dieu est en contrôle. Faire confiance à Dieu. Et nous, les croyants, dans l'ère de grâce dans laquelle nous sommes, n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Un flambeau, une lumière. Dans le monde des ténèbres. Une chose qu'on ne fera pas au ciel, savez-vous ce qu'on ne fera pas au ciel? On n'évangélisera plus au ciel. On n'aura pas de chapiteau alloué au ciel. On n'aura pas réservé le parc puis 12 au ciel, bien de bonheur. C'est fini ça. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, on va avoir des persécutions parce qu'on veut faire ça. On va avoir des affaires qui vont nous pogner dans les reins puis qui vont nous empêcher de accomplir justement le mandat que Christ nous a confié. Mais Dieu est souverain. Et Dieu, dans sa souveraineté, ouvre les portes de fer. Et comme Alain Chouaquier disait, il nous demande d'ouvrir les portes de bois. Troisièmement, pour terminer, temps passé, le croyant puis le livre de vie. Je voulais terminer avec une note extraordinaire. Est-ce qu'on réalise qu'on a l'opportunité de présenter l'Évangile à quelqu'un? Et cette personne-là, son nom va être dans le livre de vie. Quel grand privilège d'être dans le livre de vie de l'agneau, d'avoir une place prête au ciel. Parce que vous savez, comme le temps de l'Antichrist est limité à 42 mois, le temps de l'Église sur la planète Terre est aussi limité, mais on ne sait pas les années ni les jours. Mais en attendant le retour du Seigneur, réalisons que Dieu, il y a un plan pour l'univers, il y a un plan pour l'Église, puis il y a un plan pour chacune de nos vies. On va prier ensemble. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous rassure ce matin. Et on est privilégié d'être dans le livre de vie. Et on te demande, chacun de nous, Seigneur Dieu, de nous aider à proclamer cette bonne nouvelle que tu nous as confiée. D'être des chrétiens alertes, des chrétiens qui ont du discernement spirituel, des chrétiens qui ne se laissent pas embarquer dans toutes sortes de fantaisies. Mais donne-nous, Seigneur, de réaliser ce que tu nous dis dans le chapitre 13 de cette première bête, nous donne une toile de fond d'une époque terrible où l'humanité tout entière va se tourner contre Jésus-Christ et contre toi, ô Dieu. Et l'humanité tout entière va apostaser la foi qu'ils ont entendue pendant des siècles. Seigneur, on remet nos vies en tes mains et on te demande de nous aider à maximiser chacune de nos journées et d'être des enfants de Dieu qui est une lumière pour ceux qui sont alentour de nous, qui ne te connaissent pas. Bénis-nous, Seigneur, et merci pour cet ensemble ce matin, à la gloire de ton nom. Amen. Bonne journée.
Pour la chorale.